C'est vrai que le fondement de cette préférence ancestrale pour les garçons, c'est une culture patriarcale, parce qu'on préfère depuis toujours avoir un fils parce qu'il perpétue le nom du père. Il est censé aussi prendre soin des parents quand ils sont âgés. On parle là de pays qui sont dépourvus de protection sociale et d'assurance retraite notamment. Et puis un fils, traditionnellement, hérite des biens familiaux, donc il est en quelque sorte indispensable d'avoir un fils pour perpétuer le patrimoine familial. Et puis c'est une sorte d'honneur d'avoir un fils. Bon. Dans certains pays aussi, les rites religieux imposent d'avoir un fils. En Inde, par exemple, l'hindouisme n'autorise les rites funéraires qu'aux seuls garçons. C'est-à-dire que la survie de l'âme dépend de rites funéraires correctement effectués par des garçons et les filles en sont exclues. En Chine, le confucianisme aussi impose un culte des ancêtres qui lui aussi repose sur des garçons. Bon. Et puis en Inde, il y a cette fameuse question de la dot que les parents d'une fille doivent payer en plus des frais du mariage. Et tout ça entraîne des dépenses qui peuvent représenter toute une vie d'économie. Donc il y a ces raisons économiques qui viennent aggraver le rejet des filles spécifiquement en Inde.
Il semble que la sélection prénatale se pratique aussi dans les diasporas indiennes, chinoises, etc.
Oui, il y a un phénomène nouveau qui est apparu depuis les recensements qui ont été opérés au début des années 2000 en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada. On s'aperçoit que les communautés indiennes, chinoises et coréennes qui sont implantées là-bas et qui sont assez importantes aux États-Unis, par exemple, il y a 2 millions de personnes d'origine indienne qui vivent là-bas. On s'aperçoit que au sein de ces communautés, la sélection des naissances c'est elle aussi non seulement implantée mais amplifiée, elle est mesurable et que là aussi le déséquilibre des naissances entre les garçons et les filles est devenu statistiquement assez important. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part parce que ces communautés restent très liées à leur pays d'origine et qu'elles continuent d'avoir les mêmes pratiques sociales, les mêmes pratiques culturelles, mais aussi parce que dans ces pays, il existe des moyens assez faciles de connaître le sexe des fœtus avant la naissance, et notamment des tests très bon marché, très accessibles et très faciles d'utilisation. Il suffit par exemple d'une prise de sang en piquant le bout du doigt de la mère. Cette analyse de sang permet de connaître le sexe du bébé en 2 semaines et on a le résultat par mail. Ça se pratique par Internet, c'est très facile. Donc évidemment, quand les techniques médicales facilitent à ce point la détection du sexe du fœtus et que le sexe du fœtus, le sexe du bébé qu'on va avoir est si important culturellement, les deux phénomènes se combinent pour qu'il y ait évidemment sélection prénatale.
Parlons maintenant des conséquences. Ça aboutit à une espèce de déséquilibre des ratios et du coup à une augmentation du nombre de célibataires.
Oui, alors ça c'est très net, surtout dans les pays qui pratiquent cette élimination prénatale à grande échelle, qui sont des pays très peuplés et qu'ils pratiquent depuis les années 70. On voit aujourd'hui émerger en Chine et en Inde, mais aussi secondairement dans des pays plus petits comme Taïwan ou la Corée, une génération entière de garçons qui ne trouvent pas en face une génération de filles suffisamment nombreuses pour que le marché du mariage puisse fonctionner normalement. Aujourd'hui, les autorités chinoises reconnaissent que d'ici à 2020, c'est-à-dire dans très peu de temps, une 30 millions d'hommes seront contraints de rester célibataires parce qu'il n'y aura pas en face suffisamment de filles du même âge pour pouvoir se marier. En Inde, la perspective est à peu près la même. On parle d'environ 28 millions d'hommes jeunes qui resteront célibataires et ce sont des choses qu'on peut déjà constater dans les régions les plus touchées, comme les régions du Nord-Ouest, c'est-à-dire le Punjab, l'Haryana, le Gujarat, le Rajasthan. Et puis aussi des grandes villes, hein, comme la capitale New Delhi, où on voit que les parents de jeunes hommes se mettent à rechercher des jeunes femmes pour leurs fils. Et évidemment, ils ont beaucoup de mal à trouver. Alors, parmi les conséquences, on se rend compte que ce manque d'épouses, malheureusement, se traduit par une hausse des trafics de femmes. C'est aussi une chose que j'ai pu constater dans une région comme le Punjab. On voit des trafiquants qui se spécialisent, maintenant qui parcourent le pays et qui vont acheter des jeunes filles, parfois très jeunes d'ailleurs, il s'agit souvent d'adolescentes, dans des familles pauvres et qui revendent ces jeunes femmes à des familles de célibataires pour qu'elles deviennent les épouses des fils qui n'ont pas trouvé d'épouse dans leur région.
Donc c'est une véritable marchandisation des femmes en fait.
C'est vraiment une marchandisation des femmes. On est en train aujourd'hui de constater qu'il y a des trafics de grande ampleur qui se mettent en place dans toutes les régions chinoises et dans toutes les régions de l'Inde, mais aussi dans les pays limitrophes. Un rapport récent pour l'Inde a parlé d'environ 250 000 à 300 000 femmes qui seraient chaque année l'objet de trafic, à la fois pour devenir les épouses des célibataires, donc là il s'agit de mariage forcé quand même, hein, mais aussi pour aller dans les maisons de prostitution, parce que la prostitution aussi est une des conséquences de cette situation.
Est-ce que tout ça s'effectue sous le couvert des États, ou bien est-ce que les États justement ils essaient de prendre les devants et essaient de légiférer pour contrer un peu ce genre de phénomène?
Alors, il y a deux choses. Dans les pays qui sont touchés depuis donc une trentaine d'années, la Chine et l'Inde, évidemment, les autorités ont compris dans quelle impasse démographique la société était en train d'avancer. Et les autorités prennent depuis plusieurs dizaines d'années déjà des mesures pour sensibiliser la population à ce problème. Il y a en Chine et en Inde une action volontariste des États. Ça n'est pas encore vrai dans les pays nouvellement touchés, dans les pays du Caucase et des Balkans. D'abord parce que le phénomène est seulement en train de commencer à émerger, donc les autorités n'ont peut-être pas encore pris la mesure et n'ont pas encore réagi. Et qu'il y a aussi un phénomène de déni, c'est-à-dire que les démographes qui travaillent sur ce sujet s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes, par exemple, pour accéder aux statistiques sexuées des naissances, c'est-à-dire combien naissent de filles, combien naissent de garçons, simplement parce que, bon, à la fois les appareils statistiques présentent des défaillances, ça c'est clair, mais aussi parce que les autorités ont tendance à vouloir occulter le problème, à vouloir le cacher un peu. C'est particulièrement vrai pour un pays comme la Géorgie, par exemple, ou l'Albanie, parce que les autorités se rendent compte que cette réalité n'est pas très bonne pour leur image. Donc, ils ont un peu tendance à vouloir cacher les choses sous le tapis. Ça finira de toute façon par émerger. Mais on ne peut pas dire que ces pays veulent se mobiliser pour combattre le phénomène. Au contraire, ils ont plutôt tendance à l'occulter pour le moment. L'extension du phénomène de la sélection prénatale est seulement en train de commencer à être mesurée. Il est fort probable qu'elle continue à s'étendre. On pense notamment aux pays du Moyen-Orient, où là aussi, la naissance de garçons est favorisée et privilégiée, et qu'il faudra certainement une prise de conscience plus large, une prise de conscience internationale et des moyens d'études mis à la disposition des démographes pour pouvoir mesurer réellement cette extension qui, encore une fois, est récente, mais qui est probablement appelée à se développer.